Le manager en soi, en fait, c'est celui qui est là pour retirer le caillou de la chaussure des salariés. Il doit tout faire pour leur déblayer la route. Moi, je vois vraiment ça comme un brise-glace. Il doit enlever tous les irritants qui font que l'équipe n'avance pas.
Bienvenue sur Génération Management, le podcast dédié au décryptage des pratiques managériales. Je suis Louis Lafon, fondateur de Wanae, une application pour digitaliser les process de management. Je vous propose de rencontrer chaque mois des managers, consultants, coachs pour analyser ensemble les sujets du management à travers leurs expériences. Bonnes pratiques, difficultés, tendances de demain, c'est celles et ceux qui le pratiquent au quotidien qui en parlent le mieux. Alors bienvenue sur Génération Management, le podcast pour développer votre puissance managériale. Salut Aurore, je suis ravi de t'accueillir sur Génération Management. Donc le sujet du jour, c'est évoluer d'expert métier à manager et comment réussir la transition. D'abord, une petite question pour commencer. Comment vas-tu ?
Eh ben, écoute, ça va super. Merci de m'accueillir pour ce podcast. Effectivement, comme tu sais, moi, je suis passionnée de RH et de management et donc je suis super contente de te présenter ce sujet. Donc, comment passer d'expert métier à manager et surtout comment en fait l'entreprise peut accompagner l'expert dans cette transition ?
Ouais, bah avec plaisir. Et avant de rentrer dans le détail, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter ?
Ok, sans problème. Alors du coup, mon parcours, donc en fait, j'étais pas forcément une super bonne élève, ça qui est assez drôle, quand on... ça commençait pas forcément très bien. Et en fait, quand j'ai passé mon bac en première, j'ai eu un déclic. Quand je préparais mon oral de français, il y a mon frère qui m'a dit « Aurore, tu t'appelles Aurore Wisniewski. » Donc déjà, W, tu passes en dernier. Donc, la prof de français, elle est sous l'exomile, elle en a marre. Elle a vu des gamins qui ont saccagé Voltaire, Victor Hugo. Donc là, quand tu fais ton oral, tu dois absolument la réveiller, lui faire du baume au cœur. Et en fait, cette expérience que mon frère m'a fait en coaching, ben en fait, ça m'a permis d'hacker les codes, de comprendre en fait ce qu'on attendait de nous dans la société. Ouais. Et du coup, c'est ça en fait qui a guidé, qui a vraiment été le fil conducteur après de toute ma carrière. Ça peut être drôle, mais je suis passée d'élève complètement moyenne à élève qui a son bac avec mention très bien, qui arrive j'ai été majeure de promo. Parce qu'en fait, à part ce moment-là, j'ai vraiment compris ce qu'on attendait en fait dans le monde de l'école déjà, et ensuite dans le monde supérieur et professionnel. D'accord. Et donc, c'est pour ça que rapidement, en fait, j'ai vraiment monté les échelons. J'ai eu un parcours donc, dans la grande distribution, école de commerce classique, donc les grands industriels, ensuite la grande distribution. Et à 23 ans, j'avais déjà 90 salariés, 4 magasins à gérer, beaucoup de chiffre d'affaires.
Okay.
3 ans après, comme j'avais compris comment on évoluait, c'était facile de passer tout ce qui était jury d'examen interne. Donc je suis passée responsable des ventes. Et là, je suis montée à une autre échelle, 500 salariés, 6 cadres à gérer.
D'accord.
Et 20 magasins. Donc ça a été mon dernier poste en entreprise, et donc avec du coup une grosse expérience en management.
Ouais.
Forcément, comme tu peux l'imaginer, il y avait beaucoup de choses à gérer, des imprévus, surtout dans la grande distribution. On a quand même des populations qui vont du caissier, du manutentionnaire jusqu'au cadre, aux responsables techniques, on construisait des magasins. Ouais. Donc vraiment, ça a été un environnement qui était super formateur pour moi.
D'accord, ouais, où tout bouge super vite, si j'imagine.
Exactement.
Et donc, ton frère a été ton premier coach.
Exactement.
Quel est ton métier aujourd'hui ?
Et mon métier aujourd'hui, c'est l'accompagnement à la transition de carrière. Donc, j'accompagne plus spécifiquement les femmes qui ont des objectifs professionnels, qui sont super déterminées. Donc, par exemple, ça va être une femme qui veut accéder à un rôle managérial, mais qui ne va pas oser. Une femme qui va revenir de congé maternité, qui va être un petit peu déboussolée, qui va vouloir faire le point sur sa carrière. Ou alors une femme en poste qui veut une augmentation de salaire. Donc concrètement, je vais faire des accompagnements en individuel pour les aider à dépasser ces blocages, à comprendre les codes, puisque j'ai hacké le système et que j'étais aussi de l'autre côté du bureau, en fait, que ce soit lors des recrutements, mais aussi je faisais partie des jurys nationaux internes dans plusieurs entreprises. Donc en fait, je connais les codes, je sais vraiment ce que l'employeur va attendre, mais aussi le manager. Parce que, ok, certes, on a le recruteur qui a des attentes, mais ce qui compte en fin de ligne, ça va vraiment être le manager, en fait. Qu'est-ce que le manager attend ? Et donc, cette double compétence que j'ai en recrutement et management, c'est vraiment ça qui fait que mes clients ont du résultat.
D'accord. Ok, et pour rentrer un peu dans le vif du sujet, qui est d'évoluer d'expert métier à manager. Déjà, pour poser un peu le contexte, quels sont les différents cas d'usage où un expert métier peut passer manager?
Alors effectivement, en général, il y en a deux les plus classiques. Ça va être la croissance de l'entreprise, que ce soit une entreprise qui soit une PME ou une start-up qui va avoir une forte croissance. Donc elle va se dire, OK, j'ai besoin d'ouvrir une business unit, j'ai besoin de nouveaux managers pour accompagner ce changement d'échelle. Ou même aussi des grandes entreprises dans lesquelles j'ai fait partie. Quand j'étais chez Danone, à un moment donné, on a ouvert un nouveau segment. On s'est dit, OK, on a vraiment besoin de recruter un manager pour encadrer finalement cette transition. Ouais. Et accompagner, former les nouveaux entrants ou la nouvelle équipe. Ça, c'est vraiment D'accord. la croissance en interne. Et ensuite, il y a tout simplement le mécanisme du départ d'un manager, que ce soit lui-même le jeu des chaises musicales ou un poste qui se libère. Donc ça va être vraiment les deux raisons dans lesquelles on va faire souvent appel à un expert métier donc, qui est déjà présent en interne pour évoluer, pour gagner du temps. Voilà.
D'accord. Et donc ce qu'on peut appeler un expert métier, donc c'est quelqu'un qui est sur le terrain, très opérationnel, et donc qui évolue sur un poste de manager, donc qui est tout de suite déjà un peu moins dans la production, dans l'opérationnel. Quelles peuvent être les difficultés de cet expert métier quand il change de poste ?
C'est exactement ce que tu dis, c'est que l'expert métier, il a vraiment une technicité. Donc lui, il va s'occuper de... Voilà, on lui donne une problématique, il va la gérer de A à Z, mais finalement, il va être plutôt en autonomie, il va gérer son temps. Et là, maintenant, il va passer sur une autre échelle. Il va passer d'une vision micro à une vision macro. Donc déjà, il va falloir qu'il se mette en tête qu'il y a des enjeux à plus long terme, de la politique aussi. Donc ouais. Ça, forcément, ça, c'est quelque chose des fois qui a un peu du mal à... Parce que ça ne s'explique pas, ça se ressent en fait, tout ce qui est politique et enjeux internes dans l'entreprise. Donc l'expert métier, des fois, il n'a pas forcément cette sensibilité.
Beaucoup de savoir-être sur...
C'est ça. Se dire, je vais lâcher du lest sur ce sujet-là parce que finalement, l'autre manager va me donner quelque chose par la suite. Donc, il y a vraiment cet enjeu de pouvoir qui doit vraiment être pris en compte. Ensuite, il y a aussi le changement de posture. Tu vois, l'expert métier, et surtout si c'est en interne, dans les cas dont on a parlé, il va se retrouver souvent à manager soit des collègues, soit des nouveaux entrants. Mais quand il manage des collègues, il faut vraiment qu'il adopte une posture. Alors, il ne faut pas qu'il change totalement parce que sinon, on va lui reprocher. Mais il faut faire très attention à la posture. C'est-à-dire que maintenant, voilà, il va vraiment être dans l'exemplarité. Il ne va plus pouvoir faire des soirées jusqu'à pas d'heure à boire et à faire des excès. Et il va devoir avoir vraiment cette posture d'exemplarité. Ouais. Aussi, ce qui va être très important, ça va être prendre du temps finalement et pas se jeter dans l'expertise qu'il va avoir, mais prendre le temps de connaître son environnement, le contexte, pour créer sa stratégie, sa feuille de route.
D'accord.
Et après, il y a aussi un autre écueil, c'est forcément, il est expert métier, donc il est hyper pointu, il voit tous les défauts forcément de tout ce qui est technique et se dire, tout va pas se faire aussi vite que si c'était lui qui l'exécutait, parce que forcément, il y a une partie de délégation. Donc l'idée, c'est vraiment ce côté délégation qu'il va falloir accompagner en tant qu'employeur. Ça va être vraiment cette partie-là qui va être très importante.
Oui. Et est-ce qu'il y a souvent des difficultés à lâcher un peu, entre guillemets, la partie opérationnelle pour le manager et de prendre cette posture un peu plus haute dont tu parlais?
Ouais, effectivement, moi j'ai en tête, j'ai assisté à une scène, en fait il y avait un responsable de magasin qu'on avait promu responsable de secteur, et en fait parce qu'il a des excellents résultats. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a, comme il était très bon, on s'est dit, vas-y, on le laisse en autonomie, ça va bien se passer. Et en fait, il n'a pas réussi du tout à déléguer parce que les salariés qu'il a gérés avaient un niveau technique beaucoup moins bon. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il camouflait les problèmes de l'équipe, il camouflait le manque d'expertise de son équipe en travaillant lui-même. Sauf ce qui s'est passé, c'est qu'il est parti 3 semaines en vacances. Oui. Bah, son remplaçant, il s'est rendu compte très vite qu'en fait, on a découvert le poteau rose et qu'en fait, c'était pas bon du tout. Donc, il y a vraiment ce côté de déléguer, mais aussi au manager du manager, donc d'accompagner finalement le N+2, d'accompagner pour s'assurer que la transition se fait bien et que c'est pas juste de la poudre aux yeux. Voilà, c'est ça. Après, il y a aussi toute la partie gestion des conflits dans l'équipe. Et aussi que l'expert ose demander de l'aide parce qu'il part, il était senior manager, voilà, il était senior expert dans sa technicité, et maintenant il devient manager junior. Donc il y a vraiment tout ce changement à opérer.
Ouais. Et donc, il y a un fort enjeu sur la transition. Quels sont les risques ou les conséquences d'une transition qui ne fonctionne pas ou qui est mal anticipée ?
Alors ça, pour ceux qui l'ont vécu, c'est vraiment le radeau de la méduse, c'est vraiment très difficile à gérer parce que déjà pour l'employeur, forcément, on va avoir une perte de temps, on va falloir reprendre le processus de recrutement en interne, en externe, on sait qu'il est très long. Ensuite, pour l'expert métier, imaginez-vous, vous avez été promu et finalement, on vous rétrograde, on vous remet. Mais on vous remet où ? Parce que votre place, elle a été prise. Ouais. Il y a quelqu'un qui a votre place maintenant, vous avez formé votre successeur. Mmh. Donc le successeur, il fait quoi ? Il se retrouve comment ? Il est aussi embarrassé. Les salariés du nouveau manager, ils disent « Non mais attends, on va devoir encore recommencer, il y aura encore du turnover, on est complètement perdu, du coup ils vont beaucoup moins avancer. »
Ouais, très mauvaise image et démotivation.
Donc finalement, ça impacte toute l'entreprise en fait, cette transition qui n'a pas été accompagnée. J'ai l'exemple d'une cliente que j'ai accompagnée qui s'était précipitée sur un poste en interne. Qui voulait absolument y aller, elle n'avait pas trop réfléchi. Quand elle arrivait sur place, au bout d'une semaine, elle s'est dit non, mais en fait, c'est pas du tout ce qu'on m'avait vendu, c'est pas du tout ça. Sauf que elle avait fait 3 mois de passation, et donc du coup, l'entreprise l'a remis dans un poste fourre-tout. Mais forcément, elle se sentait doublon, elle s'est sentie trahie. Résultat, elle est partie, on lui a trouvé une autre opportunité ailleurs, quoi. Donc, d'accord. Faut vraiment attention sur ça.
Ouais, ok. Et à contrario, quels sont les avantages d'avoir un expert en tant que manager, un expert métier qui connaît à la fois le terrain et qui passe manager ?
Alors cette partie-là, déjà ce qui est intéressant, c'est que c'est la solution la plus simple, la plus rapide. Donc souvent c'est à laquelle on pense. C'est aussi la moins coûteuse parce qu'en général, quand on prend quelqu'un qui est déjà dans l'équipe, le gap de salaire qu'on va faire, même si on lui propose une promotion, il va être moindre que si on prend quelqu'un de l'externe. Donc ça, c'est un avantage. On connaît surtout le salarié. Moi, c'est ce que je dirais en premier aussi, c'est quand même ça. On connaît le salarié, on connaît sa personnalité, on sait finalement ses points forts, là où il va devoir être accompagné. Et par contre, attention, il n'y a pas de période d'essai. Donc, il faudra bien choisir la personne.
D'accord. Et parce que aussi l'avantage, je trouve, c'est que l'expert métier, il a à la fois la vision globale et puis la vision du détail dont tu parlais, la vision terrain. Et ça peut être aussi un avantage pour le manager de savoir de quoi il parle et d'être aussi légitime par rapport à ses équipes.
Mais c'est exactement ça, tu parles de légitimité, t'as mis le doigt dessus. Le manager en soi, en fait, c'est celui qui est là pour retirer le caillou de la chaussure de ses salariés. Ouais. Il doit tout faire pour leur déblayer la route. Moi, je vois vraiment ça comme un brise-glace. Il doit enlever tous les irritants qui font que l'équipe n'avance pas. C'est ça son boulot,
d'accord,
en fait.
Okay.
Et en fait, il faut vraiment se dire que pour moi, le manager, en fait, il est... Alors ça peut choquer certains, mais il est au service de ses salariés, mais en fait, ils lui rendent. Parce que finalement, en étant à leur service, il y a ce lien de confiance qui va être créé, et donc ils vont atteindre leurs objectifs. Moi, clairement, j'ai toujours fait ça. Et d'ailleurs, dans la grande distribution, ça a souvent détonné, c'est qu'en fait, je m'occupais des salariés, j'étais pas du tout dans les directives à mort et tout, je leur disais, écoutez, on va faire au mieux, voilà, on va prioriser, faites au mieux. Et en fait, quand je disais aux salariés, faites au mieux, ils me faisaient le double. Il me faisait le doute parce qu'en fait tout le stress s'évaporait et il disait je suis en confiance et donc j'y vais. Et donc c'est vraiment cette partie de soft skills qui va être hyper important pour cet expert métier. Il doit avoir la technicité, mais attention à pas s'enfermer dedans parce que finalement c'est pas ce qu'on va attendre de lui.
D'accord. Et du coup donc tu parles de soft skills, quelles sont concrètement les compétences nécessaires de l'expert métier pour devenir manager?
Alors ça va être classiquement les soft skills qui sont donc du manager, vu qu'il est expert métier, déjà il a les compétences, le savoir-faire, ça c'est évident, mais en plus de ça, va falloir trouver quelqu'un qui a une très bonne capacité à communiquer, à se remettre en question, qui est exemplaire. Comme on a parlé tout à l'heure, c'est cette vision globale, réussir à quand même comprendre les enjeux, à se dire ok, ma business unit elle s'intègre dans l'entreprise. Comment, en fait, pour réussir finalement à avoir cette vision, se dire, ok, comment mon équipe va s'intégrer, comment ne pas non plus tirer tout le temps la couverture vers moi, mais penser global. Et ça va être vraiment ce switch à faire. Okay. Bien sûr, il va y avoir la partie gestion du stress, classique, orientation, résultat. Mais les deux points sur lesquels je veux vraiment insister, sur la partie managériale, ça va être vraiment, en tout cas pour moi, ce qui compte le plus, c'est une personne qui a vraiment cette remise en question, une humilité, ouais, une capacité à aller de l'avant. Parce qu'à partir du moment où la personne elle est de bonne volonté, elle est honnête, elle est exemplaire, si tu veux, on pourra tout lui apprendre. Tout le reste, ça peut s'apprendre. Mais quelqu'un qui est fourbe ou qui va toujours rester campé sur ses positions, finalement, c'est là où il y aura le blocage. Alors que si tu as quelqu'un qui est vraiment dans cette capacité d'apprentissage et de bienveillance, pour moi, c'est vraiment ça. Tout le reste, on va l'apprendre, en fait. Tout le reste peut s'apprendre.
D'accord. Donc, c'est vraiment être à l'écoute de ses équipes et puis prendre en compte leur avis et leur point de vue, en fait.
C'est exactement ça. Il ne faut pas confondre les compétences et l'expérience. Parce que moi, j'ai vu des jeunes... des jeunes salariés, des jeunes cadres à qui la vie n'avait pas fait de cadeaux, qui sont clairement, ils se sont bouffés des murs, ils ont eu des choses qui leur sont arrivées, et ils avaient une maturité vraiment mais incroyable, ouais, alors que des personnes de 45-50 ans, qui eux avaient donc le nombre d'années sur le papier qui allait bien, mais clairement au niveau remise en question, en fait on était au niveau zéro, il n'y avait aucun management, aucun leadership. Donc vraiment je pense que le plus important, c'est de voir la compétence en tant humaine, soft skills, et pas le nombre d'années, parce que ça c'est vraiment le système à la française et il faut arrêter sur cette partie là
ouais. Et ok, donc une fois que donc on a le besoin, une fois qu'on sait quelles sont les compétences nécessaires, est-ce que tu as des petits tips pour nos éditeurs sur comment identifier le bon candidat?
Effectivement, là la question ça va être: comment ne pas se tromper? Puisque comme on l'a dit, on n'a pas peur d'essayer, mais il y a quelque chose, on va en parler un petit peu tout à l'heure. C'est vraiment comment identifier le bon expert. Parce qu'on a des experts qui finalement ne sont pas faits pour le management, il faut se le dire. Hein. Ce n'est pas parce qu'ils ont 20 ans de boîte et qu'ils sont super et que ça se passe très bien ce sont forcément les bonnes personnes. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est déjà, je pense, la première chose, c'est être à l'écoute de l'envie du salarié. Parce qu'il faut avoir cette envie managériale, tout le monde ne l'a pas. Et c'est ok qu'on n'ait pas envie de passer manager, en fonction de sa personnalité. Donc déjà, savoir si le salarié qu'on a en tête a déjà émis ce souhait, ce qu'il en a parlé, ce qu'il a évoqué, que ce soit lors d'entretien annuel, de l'entretien professionnel, ou même dans une pause café, ou quand on parlait pendant une réunion, tiens, il y a une croissance, est-ce que déjà il s'est positionné? Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est élargir petit à petit son scope de compétences, lui donner de plus en plus d'ampleur, de place, pour tester de façon non officielle, en fait, son potentiel managérial. Le mettre dans des situations, par exemple, de remplacement pendant les congés d'un manager, etc., qui vont pouvoir se dire « Ah tiens, finalement, est-ce que cette personne-là, elle a ses capacités, même si elles sont des soubresauts, c'est peut-être juste... » un petit bourgeon, mais est-ce qu'il y a quelque chose à aller chercher? Donc ça va être ça. On va pouvoir faire aussi tout ce qui est évaluation en 360. Ça, c'est quelque chose qui marche bien. L'évaluation en 360, ça va être de prendre en fait des avis sur les compétences de la personne. Donc surtout, le plus important, ça va être forcément le savoir-être, parce que le savoir-faire, c'est un expert, donc ça, c'est maîtrisé. Sur la partie savoir-être, c'est de demander donc à ses supérieurs, à ses subordonnés, à ses collègues, à des clients, en fait, finalement, comment il est perçu.
D'accord.
Parce que ce côté perception, ça fait partie de la communication et du personal branding du manager. Donc, en fait, c'est son leadership, son charisme, ses interactions qui vont pouvoir être évaluées de façon à 360 et donner finalement un retour assez global sur la personne. Et bien sûr, moi, ce que je conseille vraiment, l'idéal, en fait, c'est que tout ça, c'est le faire au fur et à mesure, en fait. C'est pas quand on a un besoin qu'il va falloir se réveiller et se dire « Attends, tiens, il y avait Jean-Jacques qui m'avait dit qu'il voulait éventuellement... » Non, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, en fait. Il faut avoir l'œil et il faut préparer son vivier pour justement anticiper et que ça bouleverse le moins possible, en fait, l'entreprise.
D'accord, donc bien préparer le terrain.
Exactement.
Et donc, il y a quand même des cas de figure où le besoin managériel est assez urgent. Et pas forcément le temps de préparer ou de faire les tests dont tu parlais qui prennent du temps. Dans ce cas-là, comment on peut faire?
Ah ben là, ça m'est arrivé souvent, je peux te dire, dans la grande distribution, c'est au pied levé. Ah tiens, Aurore, on a trouvé un emplacement, il nous faut un chef de magasin. Ou ah tiens, j'ai un départ en mater, vas-y, sors-moi du chapeau quelqu'un. Donc ça arrive tout le temps et j'en suis bien consciente parce que ce que j'ai présenté avant, c'est ce qu'on fait sur le long terme. Mais vraiment, si on vous dit, ok, là, on a tant de semaines pour trouver quelqu'un, l'idée, c'est déjà de se baser sur son ressenti, sur les entretiens annuels, les entretiens professionnels, et se dire vraiment, ok, est-ce que les expériences passées, même si j'ai dit tout à l'heure un petit remplacement, ou est-ce que la personne a organisé un séminaire, comment elle s'est positionnée, ces petits indices là en fait c'est assez probant. Et surtout, je rappelle les deux points qui vont être vraiment primordiaux, c'est est-ce que la personne a envie de progresser, se remettre en question, et a vraiment cette honnêteté intellectuelle. Ça va vraiment être les points où vous dites, ok, bon ben, au moins si ça fonctionne pas, la personne est honnête, on va pouvoir travailler ensemble. Donc c'est vraiment ça, les critères sur lesquels j'insiste.
D'accord. Et donc tout à l'heure, tu parlais de période d'essai, et donc surtout qu'il n'y avait pas de période d'essai, mais on peut avoir recours à une période probatoire. Quel est, toi, ton avis sur le sujet ? Est-ce que c'est une bonne pratique ou est-ce que c'est à éviter ?
Alors, la période probatoire, donc ça, c'est une clause du contrat qu'on peut mettre, soit donc qui doit être contractualisé, soit dans le contrat initial, soit dans l'avenant. Donc, comme on l'a dit, quand c'est un changement de poste à l'intérieur d'une entreprise, on n'a pas le droit de faire une période d'essai, mais on a le droit de faire une période probatoire. C'est l'équivalent d'une période d'essai sur un poste en interne. À l'issue de la période probatoire, on peut effectivement rompre donc cette période et le salarié est réintégré. Attention, moi je ne suis pas forcément favorable sur cette partie-là, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le plus important, c'est vraiment quand on prend une décision, on a quand même, alors je vais pas dire, oui, on a la vie de quelqu'un en fait entre nos mains. C'est-à-dire qu'on va faire des promesses, dire à quelqu'un, se projeter, dire voilà, tu as cette évolution, peut-être que la personne elle va se dire ok, c'est peut-être le moment d'investir, de faire un prêt bancaire, de se projeter dans sa vie. Ouais. En fait, faut pas qu'on oublie que c'est une personne qu'on a à manager, c'est pas juste un pion qu'on déplace. Donc la personne, si on s'engage sur cette évolution à manager, il faut faire attention aux dégâts. Il faut faire attention parce que c'est pas je le fais et puis oh bah écoute, si ça se passe mal, de toute façon j'ai cette cartouche de sécurité, je le remets à son poste et puis on verra. Non, ça peut aller très loin. Et souvent, moi j'ai vu des salariés qui partaient ensuite en arrêt maladie, qui ensuite étaient vraiment très mal à l'aise dans leur poste, et en fait c'était néfaste pour tout le monde. Donc pour moi, quand on fait évoluer quelqu'un, alors bien sûr on n'est jamais sûr à 100%, mais il faut, nous, en tant qu'employeurs, faire le maximum pour que cette personne ait toutes les cartes en main. Est-ce qu'on a vraiment tout fait pour l'accompagner ? Donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais.
Ouais. Ah oui, en termes de démotivation, ça doit être assez destructeur.
C'est catastrophique. Ouais. Catastrophique.
Tu m'étonnes. Et elle dure combien de temps, cette période probatoire ?
Alors, ça va dépendre en fait en fonction. En général, c'est entre 2 et 3 mois. Ça va dépendre de ce que tu vas contractualiser.
D'accord.
Exactement. Après, ça peut être même fait pour des postes d'employés. Donc là, forcément, c'est comme la période d'essai, en fait, elle est modifiable, en fait.
D'accord. OK. Et alors, une fois qu'on a le bon candidat, les bonnes compétences, le poste et le besoin, comment on fait si le salarié qu'on envisage de faire évoluer refuse ?
Ben ça, en fait, c'est quelque chose, on s'y attend jamais. Arrive. Parce qu'en fait, quand on est employeur, on se dit non, mais attends, moi, je l'ai choisi, il est bien content.
Il va pas dire non, quand même.
Il va pas dire non, il a une place en or, c'est une évolution, c'est top, etc. Et en fait, ça arrive, malheureusement, ça arrive, et c'est assez. Souvent, c'est drôle. Enfin, c'est drôle. Non, c'est pas drôle. Mais quand ça arrive, en fait, souvent, le manager, voilà, il est complètement déconcerté. Il dit, mais attends, à quel moment en fait. Et donc en fait moi ce que je conseille en fait, et à chaque fois que j'ai eu des personnes qui étaient comme ça dans c'était pas un rejet, je pense c'était une peur momentanée parce qu'elle avait besoin d'accompagnement et d'explications. Donc déjà le premier point à faire, c'est ne pas forcer la main, ne pas braquer, ne pas dire non mais attends, tu te rends compte, je t'offre ça. Vraiment, faut vraiment être dans une position d'écoute. Faut se dire ok, moi j'étais persuadée que ce serait vraiment une opportunité qui pouvait t'intéresser par rapport à tous les signaux que tu m'avais envoyés, par rapport à tous les bons résultats que tu as eus. Donc la question c'est qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui ? Et en fait on se rend compte quand vraiment on questionne le salarié, qu'on l'écoute, qu'on se dit mais en fait bah, moi j'ai eu des salariés, bah attends en fait j'ai eu un enfant récemment, donc moi je suis pas forcément au courant à chaque fois, enfin quand c'est des hommes on n'est pas forcément tout le temps au courant, t'as une femme on est au courant, j'ai eu un enfant, j'ai envie de m'investir, de prendre du temps, ou alors mon conjoint a prévu un déménagement professionnel, bref en fait savoir le pourquoi du comment et du coup aussi adapter l'offre qu'on peut faire, donc soit la décaler, soit dire si c'est une peur, un syndrome de l'imposteur, dire bah écoute tu auras une période de formation, on en rediscute, et surtout en fait laisser le temps au salarié en lui disant bah écoute nous on pense que c'est une bonne voilà, que c'est bien aussi pour toi, que c'est une opportunité, et, ouais. Et vraiment laisser le temps de réfléchir. Et en général, ben, quand on est là, quand on est à l'écoute, ben, en fait, y a très peu de cas auxquels c'est un non vraiment ouais. définitif.
Oui, c'est que le collaborateur a de bonnes raisons et il faut essayer aussi de l'accompagner sur cette prise de poste.
C'est exactement ça.
Et donc, en parlant d'accompagnement, quels seraient tes conseils pour que la transition se passe bien ? Comment on accompagne un expert métier dans son nouveau rôle ?
Eh bien, ça va être vraiment quelque chose qui est primordial pour la réussite du salarié et donc de l'entreprise. Cet accompagnement-là, si on ne le fait pas, clairement... en fait on s'expose à tous les risques dont on a parlé tout à l'heure, donc vraiment le radeau de la méduse là, vraiment l'échec total. Et en fait, avec des choses très simples à mettre en place finalement et très naturelles, un peu d'organisation, et bien franchement il y a vraiment moyen que ça se passe très bien. Donc déjà, moi ce que je commencerai à dire, c'est d'être vraiment clair au niveau de la communication interne. C'est vraiment mettre en valeur le salarié, annoncer ce changement, le légitimer. Parce que déjà, ça, c'est important que le changement soit officialisé dans l'entreprise. Alors, c'est pas un couronnement, c'est pas un jubilé, mais qu'il y ait au moins une intronisation, tu vois. Qu'il y ait vraiment quelque chose d'officiel qui dise « Ok, on te fait confiance, tu as ta place. » Parce que déjà, quand on commence en étant manager, on se sent pas trop légitime. Donc, c'est à l'entreprise, c'est à l'employeur de vraiment... accentuer cette légitimité. Ça peut être tout bête, mais refaire des cartes de visite avec le nom, le présenter, etc. aux employeurs. Après, il y a toute la partie, pour continuer sur la com interne, il y a aussi les jalousies en fait qui vont avoir lieu. Donc c'est essayer justement de couper court à tout ça. Alors il y en aura toujours, mais vraiment d'être très clair sur cette évolution en interne, d'être transparent aussi avec les autres salariés pour annoncer cette évolution.
Donc ça veut dire justifier auprès des autres salariés. Pourquoi lui en fait ?
Alors oui, raisons. C'est justifié pas forcément, mais je suis toujours dans les discours d'intronisation, moi j'appelle ça, mais d'évolution. C'est toujours intéressant de mettre en valeur finalement factuellement le salarié. Pour remettre un petit peu du cadre et se dire ok, pourquoi cette personne elle a été choisie, et aussi donner aussi aux salariés, aux autres, les raisons factuelles de l'évolution. Et donc, comment eux aussi peuvent finalement aller dans cette direction-là. Et après, il y a toute une autre partie qui va être essentielle. Et là, c'est la formation. C'est vraiment l'accompagnement par la formation. Parce qu'on se dit, le management, c'est inné, on l'a ou on ne l'a pas. Non, c'est le leadership, le charisme. Ça, OK, le charisme, on l'a ou on ne l'a pas. Et encore, ça peut se travailler. L'employeur a vraiment un rôle. Enfin, c'est un nouveau métier, le management. Certes, il y a des personnes qui vont l'avoir dans le sang. Voilà, il y en a qui vont être passionnés. Je dis clairement, moi, j'avais fait mon mémoire sur la motivation dans l'équipe de travail quand j'avais 20 ans. Donc, j'étais déjà dans le bain, j'étais déjà à fond. Et à 17 ans, j'étais animatrice de colo. Donc, il y en a qui l'ont, mais ça s'apprend. Même moi, j'ai fait des formations pour développer des techniques. Donc, il ne faut vraiment pas se dire que le management, c'est quelque chose qui est inné. Non, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Donc il y en a qui ont des facilités, mais moi je conseillerais vraiment un accompagnement individuel, que ce soit, il y a pas mal d'entreprises de coaching qui font des accompagnements en individuel, et ensuite après il y a aussi l'accompagnement expert métier en interne, donc des personnes qui sont déjà managers qui peuvent accompagner, montrer leur fonctionnement, leur organisation.
Une sorte de mentor, ça peut être intéressant.
C'est exactement ça, c'est vraiment le côté mentorat et le côté aussi faire des semaines en binôme, souvent avec plusieurs personnes, pour aussi comprendre que le management, finalement, il n'y a pas une recette magique, mais que c'est chacun en fonction de sa personnalité. Donc vraiment cette partie formation,
c'est vrai qu'elle est souvent négligée, parce qu'on entend beaucoup de managers dire je suis passé manager après quelques années dans la boîte et j'ai appris sur le tard, quoi.
C'est exactement ça. J'ai appris sur le tard. Je me suis fait les dents. Ça a été dur, mais bon, j'ai roulé ma bosse et tout. Non, il y a cette façon. Bien sûr, ça, c'est important aussi de. Mais donner des outils, ça va être forcément hyper important. Et ça peut être suivi, justement. C'est comme tout ce qui est entretien annuel, entretien professionnel. Je pense aussi aux outils que tu proposes. C'est vraiment se dire, OK, comment j'accompagne pour monter en compétence mon salarié, finalement sur des compétences qui sont des soft skills, qui sont parfois intangibles, mais il y a quand même des échelons pour si tu veux, des milestones pour se dire, ok, cette compétence, je l'ai validée, et il y a des outils qui existent pour ça. Donc ça, faut pas hésiter, et toutes les entreprises ne sont pas des entreprises de formation en management, faut faire appel à des cabinets externes qui vont vraiment, eux, ça va être des experts, et qui vont pouvoir voilà, faire des mises en situation, des jeux de rôle, et qui vont pouvoir accompagner le salarié. Ouais. Il y a d'autres points aussi, il y a un point que je vois souvent, et moi qui me fait vraiment halluciner, surtout dans les évolutions, donc ouais, en interne, un expert qui passe métier, c'est vraiment en fait les deux services, donc l'ancien service et le nouveau, qui en fait écartèlent le salarié, déjà qu'ils lui disent pas aucun rétro-planning, ils savent le vendredi pour le lundi, ah bah c'est bon, ça y est, t'es muté, pas de date de passation, oh la passation, oui, vous la ferez en plus, waouh, le soir... c'est exactement, c'est qu'il n'y a pas d'organisation, et ça c'est hyper important, parce que organiser, planifier, ça permet au salarié de visualiser les étapes de cette transition. Et en fait, cette métamorphose d'expert métier à manager, c'est vraiment comme un papillon, et il faut qu'il sache, ok, là je suis une larve, là je suis une chrysalide, et là je déploie mes ailes. Et en fait, s'il n'y a pas ce rétro-planning qui est mis en place, finalement, on va droit dans le mur. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'établir cette chose-là. Et ensuite, le dernier point que je dirais, c'est aussi la partie récompense financière. Alors souvent, on se dit, bon, il va évoluer d'expert métier à manager. Ah, déjà, on lui donne des responsabilités, hein, parce qu'il n'a pas de formation, hein, il a juste eu un stagiaire à gérer. Donc franchement, c'est une belle opportunité pour lui. Hein. Non, mais à un moment donné, ok, ça je l'entends. Sauf que moi, j'ai en tête, j'ai un client qui a accompagné. Et donc lui, il était dans l'aéronautique, et c'est exactement ce qui s'est passé. En fin d'année, on lui a dit, écoute, il y a un poste qui se libère, il y a 13 personnes à manager... c'est dans ton scope, mais écoute, ce qu'on fait, c'est que là, tu vas prendre le poste, donc tu vas faire faisant fonction, et puis voilà. Et puis lui, il était tellement content, il n'a pas parlé salaire, il n'a pas parlé contrat, pas parlé avenant. Et résultat, il n'a rien dit, il lui a dit, attends, on est bien content déjà d'avoir un poste alors que tu n'as pas assez d'expérience en management. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le gars, donc il manage ses 13 personnes, ça se passe super bien. Au bout de 3 mois, il change son titre de profil LinkedIn. En fait, toutes les semaines, il a 3 offres d'emploi avec des gaps de salaire entre 10 et 15 000. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce salarié qui était là depuis 8 ans dans l'entreprise, en fait, il se forme grâce à cette entreprise pour ensuite aller se revendre ailleurs. Donc, l'entreprise, en voulant économiser des bouts de ficelle, elle se prive d'un super salarié qui va aller à la concurrence et qui, là, en fait, il se fait juste une formation sur leur dos. Et en fait, c'est bête.
Double peine, ouais.
Mais c'est bête parce qu'il faut vraiment se dire, mais c'est une... Certes, il est au début, les premiers mois, il ne va pas être rentable, mais ensuite, ça va être un retour sur investissement. Donc, c'est complètement bête. Et là, moi, ça me fait beaucoup rire, hein, parce que eux, s'ils savent ce qu'ils sont en train de perdre, ça me fait doucement rire.
Ouais,
donc, vraiment, il y a ce côté, mais récompenser financièrement, à un moment donné, faut être raisonnable.
Ouais. Et juste. Ok, super intéressant. Et du coup, est-ce que pour finir ce podcast, tu aurais une recommandation de livre pour nos auditeurs?
Alors moi, j'ai prévu un petit livre qui prend pas la tête. Un livre vraiment, parce qu'on est tous, je pense que vous êtes tous comme moi, avoir une bibliothèque remplie de super livres que vous avez envie de lire et vous les regardez, quand vous les achetez, vous êtes trop motivés après, vous faites, ah non, mais je les ai toujours pas lus, vous continuez à en acheter. C'est un syndrome japonais, ça existe, mais bon. En tout cas, il y en a un qui est super facile à lire, mais là, vous le lisez dans le métro, vous le lisez, mais... Oh, vraiment en une demi-heure, ça s'appelle Les Seigneurs du Management, stratagème gagnant pour éliminer subtilement vos rivaux dans la guerre des promotions et bonus. C'est chez Erol, c'est Stefano Mastro Giacomo qui l'a fait. Et en fait, ce qui est très drôle, donc c'est plein de petites citations de tout ce qu'il ne faut pas faire en management, donc c'est hyper ironique. Et il y a une, par exemple, j'en prends une, c'est « Lorsqu'un consensus est enfin atteint, relancez le débat ». Donc en gros, c'est comment pourrir une entreprise, mais c'est tellement ironique qu'on sait qu'on ne le fait pas, mais du coup, je trouve ça hyper drôle de voir en fait toutes les... Et je pense qu'il y a peut-être quelques dizaines d'années, mais il y a des trucs comme ça, c'était acquis. C'était ce qu'on faisait, c'était des trucs pour pourrir le management. Donc voilà, c'est mon petit mot de la fin, le conseil pour se détendre au niveau du management et voir ça d'un autre œil.
Ok, super. Bon, écoute, c'est noté, je partagerai. Et je te remercie, Aurore, pour cet échange. C'était super sympa et très intéressant.
Merci à toi, Louis, avec grand plaisir.
À bientôt.
Salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Génération Management. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à suivre le podcast Génération Management et le noter. À très vite pour de nouveaux épisodes.